Je vais commencer par un verset qui fait directement le lien avec ce qu'on vient de chanter. Dans la première épître, dans la deuxième épître, pardon, de Paul à Timothée. Bon, c'est des versets qui sont bien connus. De Timothée 3, ça résonne, non ? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté ou accompli, selon les traductions, et préparé à toute œuvre bonne. Afin que l'homme de Dieu, et à partir de maintenant, je le dis, quand je dirai l'homme, c'est l'homme et la femme, évidemment, hein, on va pas faire du discours inclusif, mais voilà, que ce soit clair que c'est ça que ça veut dire. Afin que l'homme de Dieu soit adapté, soit accompli, et préparé à toute œuvre bonne. Et la question que je veux vouloir un petit peu travailler avec vous ce matin, c'est ça veut dire quoi ? Être accompli, être quelqu'un qui est adapté et préparé. Est-ce que ça veut dire d'avoir atteint un certain niveau de sainteté, on va dire, ou de capacité de ne plus pécher ? Est-ce que ça veut dire respecter scrupuleux de la loi ? Est-ce que ça veut dire telle ou telle attitude ? Une fréquence, un certain nombre de présences au culte par an, par mois, par... voilà. Évidemment, la réponse est un peu plus élaborée que ça, vous le comprenez évidemment. Beaucoup a été dit là-dessus et beaucoup de rencontres de Jésus dans les évangiles montrent qu'il veut en permanence amener les gens à aller plus loin que ce à quoi ils ont tendance, nous avons tendance à nous arrêter. Alors bon, je vais peut-être rajouter quelque chose, mais j'espère que cela pourra nous nourrir et nous faire grandir. En ce moment, dans ce que certains appellent le culte personnel, je lis le Pentateuque. Le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Alors, il y a des parties qui sont sympas, hein. Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, c'est des... Voilà. Puis, alors, il y a des trucs, c'est un peu plus ardu quand même, il faut bien le dire, hein. Je viens de sortir du... je suis sorti du Lévitique. On ne comprend pas toujours pourquoi. Pourquoi ça fait partie de cela, mais... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et même si aujourd'hui, voilà, il y a bien sûr des éléments de ces lois, toute cette la façon de faire les sacrifices, tel type de sacrifice, etc., ça ne nous concerne plus. Certains ont tiré des choses, mais ça ne nous concerne plus vraiment. Mais voilà, il y a forcément des choses intéressantes. Et un peu par hasard, dans cette très sérieuse revue que je reçois, la Hokma, hein, qui est une revue de théologie évangélique, je suis tombé sur un article qui était un peu la base de ma réflexion. Et c'est sur un texte, honnêtement, qui ne m'avait pas arrêté plus que ça dans l'Exode, mais qui peut avoir du sens pour préciser ce verset qu'on vient de lire dans 2 Timothée. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors je vous propose de lire dans Exode, au chapitre 31, ce texte qui dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Vois, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamac de la tribu de Dan, j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction, le parfum aromatique pour le sanctuaire, ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. » Vous allez me dire quel rapport. Patience. Quelques éléments de contexte, hein, on est toujours au Sinaï, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a commencé un peu à se promener, si j'ose dire, dans le désert, et puis ils sont au Sinaï, et là, Dieu va parler à Moïse et lui révéler la loi, et on est à la fin de cette période-là. Et Dieu donne toutes les précisions qui vont être nécessaires pour qu'on puisse l'adorer comme il le désire. Tout ce qui est nécessaire pour réaliser, pour offrir à Dieu un culte tel qu'il le veut. Et Dieu donne des instructions qui sont précises à l'extrême. Vous avez vu, j'ai volontairement lu toute la liste de tous les outils qui étaient dans cette tente de la rencontre et qui, les uns et les autres, servaient à tour de rôle pour différentes parties du culte qui était rendu à Dieu. Et alors, il y a un certain Betsaléel, est-ce que vous connaissiez son nom, vous l'aviez retenu? Oui, bien sûr, vous êtes bon, vous, hein, moi pas, j'avoue que je... Voilà, pas du tout. Betsaléel, il est choisi pour une grande tâche, pour cette grande tâche. Et donc, il doit être un homme accompli. Voilà le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Mais comment s'assurer qu'il est accompli? Parce que nous aussi, ce qui sera intéressant après, c'est de transposer à nos situations. Évidemment, nous n'avons plus à faire la tente de la rencontre, les vêtements spéciaux, le chandelier d'or pur, etc. Mais nous avons aussi à vivre. Et comment nous allons pouvoir être cet homme, cette femme accompli et prêt à toute œuvre bonne que Dieu a préparée pour nous. Et là, je m'inspire de cet article et puis je le transforme un peu. Et simplement, voilà, quelques pistes de réflexion. Pour être cette personne, cet homme accompli, il faut une vocation, il faut une personnalité, il faut un charisme, il faut une communauté, il faut une commande précise, et puis il faut une vision. On aurait pu rajouter certainement d'autres choses ou en enlever, mais en tout cas, c'est ces éléments-là que je vais vous proposer de détailler et de voir comment ça nous touche, nous, non seulement pour ce texte d'Exode 31, mais pour notre vie d'aujourd'hui. Alors, le verset 2, « J'ai appelé par son nom Betsaléel. » J'ai appelé. Pour être un homme, une femme accomplie qui s'engage sur le chemin que Dieu a tracé, il faut ressentir que nous sommes appelés. Nous avons une vocation. Pas forcément une vocation pour faire des choses extraordinaires, hein, parce que tout le monde n'est pas appelé à accomplir des miracles ou à aller faire une grande œuvre d'évangélisation à l'autre bout du monde. Mais tout le monde, tous, c'est ce que nous disons et croyons, nous sommes appelés pour être à la place que Dieu veut, pour la plupart du temps, transformer le monde par notre seule présence modeste. Parce que c'est ce qui est imparti à la plupart des gens. Eux sont des gens hors du commun. Et la question que nous avons toujours, c'est est-ce que Dieu appelle vraiment? Est-ce que Dieu m'a appelé? Comment être sûr que Dieu m'a appelé à être ce que je suis? Comment le croire? Comment écouter? Parle, Seigneur, ton serviteur. Vous vous souvenez de l'histoire du petit Samuel là, qui a eu un petit peu de mal à comprendre que Dieu lui parlait, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de tout à fait naturel. Et je crois que la Bible ne cesse de nous raconter que Dieu nous appelle, Dieu nous cherche. Depuis le jardin d'Éden, où Dieu se promène dans le jardin, et Adam, où es-tu? Alors, Adam, évidemment, Adam et Ève, ils ont un peu dérapé, et Dieu vient pour les relever, les remettre debout, et puis repartir, hein, même s'ils ont effectivement dérapé. Et toute la Bible en parle, alors j'ai pioché quelques versets qui parlent de ces notions-là. Il y en aurait une infinité d'autres, enfin une infinité, beaucoup d'autres en tout cas. Vous savez, des versets qui sont tous très connus et qu'on répète, mais nous savons que toute chose qu'on coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et son dessein, c'est de nous appeler. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul, Galates 5, 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Voilà à quoi Dieu nous appelle. Puis dans les Éphésiens, au chapitre 4, « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. » Et puis on va peut-être aller dans la première épître de Pierre. Donc tout au long de la Bible, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Appelés, nous le sommes. Appelés, il faut nous en convaincre. Et alors nous dirons, oui, j'ai reçu la vocation de suivre le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, j'ai prêché sur la parabole des ouvriers de la 11e heure. Et j'avais surtout insisté sur le fait que le patron, si j'ose dire, le propriétaire de la vigne, jusqu'à la dernière heure, il continuait à appeler des gens pour le servir dans sa vigne. complètement ridicule. Si on trouve quelqu'un à 5 heures du soir pour un poste qui, un job qui se termine à 6 heures, on va plutôt lui dire reviens demain matin. Ben non, Dieu, lui, il appelle en tout temps, tout le temps, et quelles que soient les circonstances, pour faire entrer les gens dans sa vigne. Alors, comment sommes-nous appelés? Comment recevoir cette vocation? Et c'est là aussi qu'il faut être très modeste et très ouvert à la façon dont Dieu veut nous parler. Est-ce que ça doit être quelque chose d'extraordinaire, de spécial? Est-ce que j'y croirais pas tant que j'aurais pas un truc comme Paul sur le chemin de Damas, à tomber de mon cheval, Jacques Jumont, mais avoir une aventure extraordinaire où, je sais pas, des prophètes, Ézéchiel, Ésaïe, qui racontent comment Dieu les a secoués pour les envoyer parler. Peut-être pour quelques-uns, pour la grande majorité, encore une fois, nous avons la parole de Dieu qui nous parle régulièrement. Plongeons dedans, gardons un œil en permanence dans cette parole de Dieu qui est celle par laquelle notre vocation, l'appel que Dieu nous lance en permanence, va nous parvenir. Betsaléel a une vocation parce que Dieu dit « J'ai appelé Betsaléel ». Et puis c'est « J'ai appelé par son nom ». Et c'est le deuxième point sur lequel on peut mettre un peu l'accent, la personnalité. Vous savez, dans la Bible, le nom, c'est la personne, mais la personne entière. Ce n'est pas seulement le nom comme un numéro de sécurité sociale, c'est le nom et c'est la personne et tout ce qu'elle représente. Et Dieu nous accepte, nous prend avec cette personnalité, et c'est avec cette personnalité qu'il veut, comment on va dire, partager. Dans Ésaïe 43, « Sois sans crainte, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Par ton nom. Dans la Bible, on voit beaucoup d'hommes et de femmes qui ont une forte personnalité. Alors, j'en ai noté quelques-uns, Jacob, David, Pierre, Paul, et puis on pourrait rajouter Déborah dans l'Ancien Testament, et puis, bref, un certain nombre de personnages comme ça. Notre personnalité compte. Elle sera utile pourvu que nous la soumettions à la volonté de Dieu. Mais les personnes que je cite là, qui on pourrait rajouter, rallonger la liste, est-ce qu'ils ont été... Leur personnalité, elle est venue tout de suite. Elle s'est forgée au travers de moments heureux ou malheureux de la vie. Et pour nous, c'est pareil. Jacob, vous savez qu'il s'est forgé une sacrée personnalité au travers des épreuves consécutives à son mensonge, à sa tricherie. Hein, il n'y a pas longtemps, il y a eu une série de prédications sur Jacob, on l'a en tête. Mais au bout du compte, quel patriarche. David. Au début, un petit rouquin méprisé qui gardait les troupeaux, etc. Puis après, c'était un peu un terroriste, ou en tout cas, c'était quelqu'un qui menait un combat contre la royauté en place. Mais au bout du compte, le grand roi d'Israël, et quelle descendance ? Pierre, l'apôtre Pierre, le cœur sur la main et la parole aux lèvres, toujours, parfois trop vite, parfois mal calibré. Mais à la fin, des leaders de cette église naissante. Pour moi, Pierre, c'est une sorte de Moïse de l'Église, quoi. C'est celui qui avait toujours des paroles, enfin, qui était un peu excessif, mais qui, néanmoins, a pu mener un travail extraordinaire. Et Paul, toujours à fond, d'abord à fond contre les chrétiens, en allant jusqu'à les mettre en prison, ou en tout cas favoriser leur arrestation. Et puis, à la fin, complètement à l'opposé, mais toujours à fond, prêt à suivre le Seigneur jusqu'à la mort. C'est ce qui lui est arrivé. Quel apôtre! Pour nous, ça sera pareil. Dieu va forger en nous cette personnalité qui nous permettra d'être à l'œuvre pour lui, là où c'est nécessaire. Alors parfois, ça fait un peu mal, il faut un peu trier, on peut enlever certains défauts, certaines tendances. Et l'image que Jésus lui-même utilise, vous savez, c'est celui de l'agriculteur qui va tailler, qui taille sa vigne. « Moi, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le retranche. » Tout sarment qui porte du fruit, l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors pour forger notre personnalité, Dieu va peut-être être obligé de tailler un petit peu ici ou là. Puis parfois, il a besoin même de changer notre nom, c'est-à-dire de vraiment amener quelque chose, une différence encore plus sensible. Et c'est les images que la Bible nous donne avec Abraham, dont le nom est changé en Abraham, Jacob qui devient Israël, Simon qui devient Pierre, Saul qui devient Paul, et il y en a sans doute un certain nombre. Une vocation, une personnalité qui se construit dans le Seigneur, un charisme ensuite. Et dans le texte qu'on a lu, vous l'avez entendu avec moi, je l'ai rempli, au verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. Betsaleel, il avait reçu un charisme. Alors vous allez dire, moi j'ai aucun charisme, moi je ne sais rien faire, j'ai aucun don. Vous n'avez pas entendu déjà des gens autour de vous dire ça, moi finalement j'ai aucun don. J'en vois certains qui sont capables de jouer de la guitare ou du piano, et moi je ne sais rien faire. La parole de Dieu ne nous dit pas que les charismes et les dons que Dieu nous donne sont toujours des choses extraordinaires. Quand Betsaleel était en train de, je sais pas, de marteler ce cuivre, ça paraît une tâche manuelle tout à fait basique. N'empêche que ça faisait partie de ces choses, ces charismes dont Dieu l'avait équipé. Chacun, nous avons tous reçu quelque chose du Seigneur. Sommes-nous prêts à le mettre à son service? Sommes-nous prêts à le mettre en marche pour lui construire ce tabernacle, comme pour reprendre l'image de l'Ancien Testament? Et Paul dit dans l'Épître aux Romains, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le service, que ce soit dans un esprit de service. C'est intéressant ça, service. Des fois on fait un service dans un esprit de retour sur investissement. Non, ce que là nous dit, c'est si on a l'esprit de service, que ce soit uniquement, c'est-à-dire gratuitement pour le service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Je le prends pour moi. Que celui qui exhorte, comme Jean-Haut nous l'a dit, une sœur qui est au loin, qui a besoin d'être exhortée parce qu'elle passe par un temps difficile, s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Que celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Et puis le texte continue, parce que ça, c'est des dons un petit peu, voilà, qu'on voit bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Attachez-vous au bien par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Ça aussi, ça fait partie de ces charismes que Dieu distribue dans son Église. Ayez de l'empressement, soyez fervents, servez le Seigneur, réjouissez-vous. Il y a des gens qui véhiculent la joie avec eux, et ça fait du bien à tout le monde, à la communauté. Persévérez dans la prière. Il y a aussi des frères et sœurs dont le charisme, c'est pas forcément d'être très présent quand on est ensemble, mais de passer des heures à prier pour tel et tel frère et sœur. Un charisme, nous avons tous reçu un charisme. Le charisme, tiens, de Sandrine ce matin, c'était peut-être d'accueillir les gens à l'entrée et de donner du gel hydroalcoolique. Bon, accueillir, oui, il y a aussi ces idées-là. Pour être accompli, prêt à toute bonne œuvre, comme disait le texte de Timothée, il faut que nous sachions, nous sentions au fond de nous-mêmes que nous ne sommes pas là par hasard, mais que Dieu attend de nous, qu'on lui mette à disposition ce que nous savons faire. Parfois, ça prendra un caractère un peu hors du commun, mais la plupart du temps, ça sera des choses très simples. Mais si nous sommes joyeux, faisons profiter les autres de notre joie. Si nous savons passer du temps dans la prière, faisons profiter l'Église, nos frères et sœurs, les gens autour de nous, le monde entier de cette prière. Ça peut être ça, notre charisme. Pour continuer le parallèle avec ce texte de l'Exode, donc on a vu, il faut une vocation, une personnalité, un charisme, une communauté aussi. Verset 6, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Il n'était pas seul, Betsaleel, peut-être le leader de l'équipe, mais il ne pouvait pas faire tout seul. Il avait besoin des autres, parce que sans les autres, peut-être que lui, il était particulièrement doué pour, je ne sais pas quoi, manier l'or ou le bronze. Puis il y en avait d'autres qui faisaient mieux la couture, et puis certains qui préparaient des parfums. Il fallait une équipe complète. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons cultiver et garder en nous. La Bible parle sans cesse de Dieu qui appelle, et tantôt il appelle individuellement, et tantôt il appelle le peuple. Mais ces deux éléments-là, notre piété personnelle et notre piété communautaire, tout ça, ça va ensemble. Il y a à la fois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, l'évangile de Jean, et là on est dans l'individuel. Comment est-ce que ça me touche, moi, personnellement? Et puis il y a aussi le texte qu'on a lu tout à l'heure dans l'Épître de Pierre, « Vous êtes une race élue, un peuple racheté, etc. » Et là, on est tous ensemble, on est un peuple que Dieu veut s'attribuer en quelque sorte. Pourquoi? Parce que, sans doute, dans les moments où nous sommes ensemble, Dieu nous parle d'une manière particulière, comme s'il était présent, présent au milieu de nous, en nous aidant à gommer nos différences, en nous aidant à ne pas nous attacher au fait que nous sommes plus ceci ou moins cela que les autres, mais au fait que nous sommes tous unis ensemble, comme il a pu le faire avec les disciples. Vous connaissez ce récit dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Après la résurrection, les disciples sont un peu paumés, si j'ose dire. Et au verset 19, Jésus se tient au milieu des disciples, que la paix soit avec vous. Et puis Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux. Et les autres lui disent, nous avons vu le Seigneur. Vous savez l'histoire, Thomas dit, attends, vous rêvez les gars, vous avez une vision. Moi, si je ne vois pas ses mains, ses blessures, si je ne le touche pas, j'aurai du mal à y croire. Ça résonne quelque part en nous, enfin en moi en tout cas, bien évidemment. Et 8 jours après, le Seigneur répond à cette hésitation. Le Seigneur répond à ce doute. Il y a un doute, ok, il n'est peut-être pas incompréhensible, mais le Seigneur va y répondre et il revient et dit, tiens Thomas, viens voir. Ah, tu voulais ça, ben voilà, je te permets de le faire. Mais c'est pourquoi est-ce que Thomas a pu franchir cette étape du doute ? Parce qu'il est revenu dans la communauté, parce qu'il est revenu avec ses frères. 8 jours après, il était là. Il aurait pu dire, attendez, vous êtes fada, les gars, vous êtes en train de déraper, moi je vous abandonne, je m'en vais, vous ne me reverrez plus. Oui, il aurait pu dire ça, Thomas. En fait, non, il est resté attaché à ce groupe de disciples. Et parce qu'il est resté attaché à ce groupe de disciples, le Seigneur a pu trouver le moment de renouveler sa présence et d'aider Thomas à sortir de ce doute. Donc la communauté, oui, ensemble, on oublie nos différences, ensemble on avance. Et certains disent même que Thomas, il a eu une foi qui était encore plus forte parce qu'il est passé par l'abîme du doute. Je pense que certains d'entre nous voient ce que ça veut dire. Et certains grands, j'allais dire saints, dans l'histoire de la chrétienté, ont pu dire des choses pareilles, qu'ils étaient passés par des moments de doute. Mais si nous restons attachés à ces valeurs, et en particulier au peuple de Dieu dans lequel nous avons été inclus, accueillis, Dieu va nous aider à sortir de cela. Donc on a dit une vocation, on a dit une personnalité, pas que j'en oublie, on a dit un charisme, on a dit une communauté. Il faut une commande aussi, il faut savoir pourquoi on y va. Pas juste pour faire plaisir au pasteur ou à je ne sais pas qui. Et donc c'est au verset ce qu'on a lu tout à l'heure, ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. Alors certains, ça les rebute. Ils disent, attends, si je suis chrétien, ça veut dire que je vais juste devoir obéir à ce qu'on me dit, faire ce qu'on me dit et je ne pourrai plus faire ce que je veux. Ah oui, c'est vrai que parfois, hein, on a rappelé tout à l'heure la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Oui, c'est sûr. Mais ces choses, ces actes dont il faut se priver, en général, c'est clair, ce sont ceux qui vont faire du mal à quelqu'un. C'est ça que Dieu nous demande d'abandonner. Ce n'est pas juste nous restreindre notre liberté pour faire de nous des dociles serviteurs de consignes très précises. C'est abandonner ce qui, dans notre attitude, dans notre vie, va faire du mal ou va détériorer, va abîmer cette image. Et les instructions que nous recevons, la commande que nous avons de la part de Dieu, elle traverse toute la Bible. Quelques textes choisis, un peu comme ça, piochés. Dans le Deutéronome, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà la commande que Dieu dit. Tout ce qui dans notre vie va plutôt aller vers la mort, quel que soit le sens que l'on donne, hein, la mort physique, mais aussi, ça peut prendre d'autres significations. C'est pas ça que Dieu nous demande de choisir. La commande, c'est de choisir la vie, tout le temps. Dans Ésaïe, vous qui avez soif, venez vers les eaux, même si vous n'avez pas d'argent, écoutez, votre âme vivra. Là, voilà la commande. C'est que si nous avons soif, si autour de nous des gens ont soif, comment faisons-nous pour leur faire regarder au bon endroit, aller au bon endroit pour trouver la source d'eau vive? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu au chapitre 11, là, c'est Jésus qui parle. Et puis, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Encore une parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Et puis cette parole dans l'Apocalypse. Hein, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Toutes ces paroles sont la commande que Dieu a pour nous. Et voilà pourquoi il nous a appelés. Voilà pourquoi nous avons une vocation. Voilà pourquoi il transforme notre personnalité. Voilà pourquoi il nous donne des charismes. Voilà pourquoi il nous donne des frères et sœurs pour pouvoir avancer là-dedans. C'est pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Saint Jérôme, là, qui était du 4e siècle, racontait que Saint Jean l'évangéliste, à la fin de sa vie, alors qu'il ne pouvait exprimer sa pensée par un discours suivi, il était très vieux, hein, on dit qu'il est mort à 100 ans, ne proférait d'autres paroles que celle-ci, « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Imaginez un peu la scène, hein, l'apôtre Jean, qui est hyper vieux à l'île de Patmos, qui a 100 ans ou presque, donc à cette époque, c'était encore plus avancé qu'à notre époque. Hein, mes petits-enfants, la seule chose qu'il dit, répétez à longueur de journée, aimez-vous les uns les autres. À la fin, ses disciples lui disent, mais pourquoi dites-vous toujours cela? Et l'apôtre répondit, parce que c'est le précepte du Seigneur, que seulement on l'accomplisse, et cela suffit. Donc voilà la commande qui nous est faite. La seule exigence, c'est ne pas nous prendre pour Dieu, accepter que nous avons besoin d'être guidés dans cette commande, vers « Choisis la vie afin que tu vives ». Et comme disait Jean Haut dans son mail hebdomadaire, j'ai bien aimé cette phrase avec laquelle tu terminais, « Laissons Dieu être Dieu et nous parler comme il veut nous parler ». Et puis pour terminer, la vision, il faut avoir une vision. Une commande, ça peut être effectivement, on est le nez dans le guidon, si j'ose dire, mais il faut aussi avoir une vision. Et le texte qu'on a lu dans Exode 31 vient à la fin toute une description de ce que devait être la tente de la rencontre, le tabernacle, les différents instruments. Et au chapitre 25, comme au chapitre 31, il est dit, voilà ce que vous allez faire. Et Dieu décrit à Moïse la gloire qui va ressortir de ce tabernacle, de tous ces outils qui sont préparés là. Et vous allez faire tout comme je l'ai ordonné. Comment ne pas imaginer que quand ils ont commencé, les artisans choisis, Betsaleel et les gens dont j'ai oublié le nom, Oliab, je crois, un truc comme ça. Comment ne pas imaginer qu'ils avaient en tête en permanence l'idée future. Vous savez, quand on construit, et j'ai accompagné des opérations de construction longtemps, il y a des moments où on voit rien, on voit juste un chantier, c'est crasseux, il y a des gravats partout. Allez voir au château de Bravoit, tiens, en ce moment, on verrait comment c'est pas très engageant. Mais on a en tête l'idée de ce que ça sera demain. Demain, ça sera de nouveau une belle maison avec ci, avec ça, des aménagements. Et je pense que la vision qu'avaient Betsaleel et les autres, c'était bien celle-là. C'était cette vision de l'achèvement de la commande. Alors, quelle vision avons-nous? Avec quelle vision vivons-nous aujourd'hui? C'est vrai qu'on a des temps troublés en ce moment, hein, cette pandémie, etc. Bon, tout un tas de mauvaises nouvelles ou de mauvaises circonstances qui fait qu'on a des fois un peu l'impression de vivre au jour le jour d'une conférence du Premier ministre à l'autre, en attendant de savoir si on pourra faire 10 km, 15 km, 0 km, s'il faudra avoir un masque, deux masques, trois masques, cette vaccination, AstraZeneca, toutes ces choses-là, là, ça résonne forcément en nous et ça nous coupe la vision. Ça nous empêche de voir que malgré tout, on peut voir plus loin et on a beaucoup de mal à se situer dans un an. C'est après que nous attendons, que nous espérons, puis que nous redoutons un peu aussi comment on va faire pour... Comment vont faire tous les chômeurs? Comment va y avoir toutes ces entreprises, etc. On a toujours cette vision, on a du mal à avoir une vision optimiste, positive. Je lis là une histoire que certainement beaucoup connaissent, qui est relatée par Charles Péguy. En se rendant à Chartres, Charles Péguy aperçoit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet, les gestes empreints de rage, une mine est sombre. Il s'arrête. « Que faites-vous, monsieur ?»« Vous voyez bien, je casse des pierres. » Malheureux, le pauvre homme ajoute, « J'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim, mais enfin, j'ai trouvé que ce travail idiot. » Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçoit un autre homme qui casse lui aussi des cailloux, mais son attitude est un peu différente. Son visage est plus serein, ses gestes plus harmonieux. « Que faites-vous, monsieur ?» questionne une nouvelle fois Péguy. « Je suis casseur de pierres. C'est un travail dur, vous savez, mais... il me permet de nourrir ma femme et mes enfants. » Et puis, dans un léger sourire, « Puis bon, je suis au grand air au moins. Sans doute il y a des situations pires que la mienne. » Et un peu plus loin, Péguy rencontre un troisième casseur de pierre. Son attitude tout à fait différente. Un franc sourire. Il abat sa masse avec enthousiasme sur le tas de pierres. « Impressionnant. Que faites-vous ? » demande Péguy. « Moi, répondit l'homme, je bâtis une cathédrale. » La vision qu'il avait de ce pourquoi il était à l'œuvre. Alors, quelle est notre vision? Et par exemple, Apocalypse 21, « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines, elles sont vraies. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. » Et voilà la vision que je vous invite à travailler dans vos cœurs pour que non seulement... vous aurez toutes les autres caractéristiques pour petit à petit devenir des hommes et des femmes faits, accomplis, adaptés pour la vie d'aujourd'hui et donc à toutes les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais en même temps, vous saurez qu'au bout, l'histoire a un sens parce que l'histoire que nous vivons, elle est dans les mains de notre Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses dans ses mains. On chantait ce chant il y a bien des années. Il tient le monde dans ses mains. Et le monde, ce n'est pas seulement la planète, mais c'est nous tous, êtres humains, ici à Vendeuvre, mais sur la surface du monde. Tu as toutes choses entre tes mains. On a bien du mal à le voir. On a bien souvent du mal à l'accepter. Mais tu nous appelles, tu nous choisis. Tu veux que nous puissions transformer le monde par notre simple présence. Alors Seigneur, que notre personnalité puisse grandir avec toi, que nous acceptions que nous avons reçu de ta part des dons pour les mettre au service de ton plan, que nous acceptions qu'avec nos frères et sœurs, nous formons un peuple qui marche vers cette victoire finale, parce que tu nous demandes de choisir la vie et non pas choisir la mort dans chacun des gestes de notre vie, parce que cette vision que tu nous proposes de partager, c'est cette vie éternelle avec toi, c'est cette Jérusalem céleste, c'est avec toi qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le A à Z de tout ce qui se passe, de tout ce qui existe sur la terre comme aux cieux. Merci Seigneur parce que tu continues à nous accompagner chaque